Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'environnement et des manières dont la préoccupation environnementale coexiste avec et même existe à l'intérieur du monde militaire et de la réflexion stratégique, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Estève, chercheur post-doctorant à l'IRSEM, spécialiste de cette interaction et des pratiques environnementales du monde de la défense, et vous avez notamment dirigé, co-dirigé très récemment avec Lucille Mertens, un numéro de la revue Champ de Mars qui est édité par l'IRSEM aux presses de Sciences Po, donc avec un dossier central qui est consacré au thème environnement et défense. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, merci.
Alors je veux dire, c'est un numéro et du coup aussi un épisode du podcast qui a une inscription particulière dans l'actualité parce qu'il se trouve qu'on enregistre, on diffuse ça fin juin 2022, juste après une très grosse vague de chaleur sur la France qui évidemment appelle toutes sortes de réflexions sur l'évolution de l'environnement et le changement climatique, et que parallèlement, on est évidemment encore en plein milieu du conflit ukrainien, qui est la grande actualité de ce début d'année. Donc on a cette espèce de schizophrénie un peu qui fait que d'un côté, on est un peu submergé de discours, au demeurant très légitimes, sur la nécessité de préserver la planète et de prendre soin du milieu naturel, et de l'autre, on voit en permanence des images de grosses pièces d'artillerie en train de tirer et de ravager l'est de l'Ukraine, et de blindés qui n'ont pas exactement l'air d'aider beaucoup à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ni d'être éligibles à des vignettes critères très avantageuses. Alors, c'est évidemment une coïncidence un peu fortuite, mais en même temps qui risque d'être amenée à se reproduire, et puis surtout qui pose, je crois, une question assez centrale de cette relation entre défense, opérations militaires et environnement, qui est que il y a une espèce de décalage de priorité et même de temporalité, et que quand on fait la guerre, et que c'est une question de vie ou de mort à l'instant T, on a rarement le loisir ou même le souci de penser aux conséquences environnementales de ces actions à moyen ou long terme. En même temps, il est aussi parfaitement évident que les militaires ont une prise et une interaction assez intense avec le milieu naturel, et que c'est donc quelque chose qui les intéresse, disons, depuis longtemps. Donc ma première question serait de savoir si on peut trouver un moment, une sorte de point de départ, où le monde ou bien les institutions militaires commence à se poser la question de l'environnement, pas seulement au sens de la météo et de ce qu'elle permet ou pas instantanément, mais en tant que tel, c'est-à-dire en tant que milieu naturel changeant qu'il faut appréhender et peut-être préserver. Est-ce qu'il y a un point de départ en quelque sorte pour tout ça ?
Oui, il y a un point de départ qui est essentiellement, d'après moi, la guerre du Vietnam, qui pour la première fois montre, disons, les impacts très importants que peut avoir la guerre, que peuvent avoir les militaires sur l'environnement. On avait déjà eu l'exemple des conflits mondiaux, hein. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a déjà, voilà, en France, après la Première Guerre mondiale, des zones rouges qui sont délimitées, des forêts mitraillées. On voit déjà que la défense, enfin que les activités militaires en temps de guerre auront des impacts écologiques importants. Mais la guerre du Vietnam marque un tournant du point de vue du droit international aussi, surtout. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre du Vietnam, certaines armes sont ostracisées, en tout cas délégitimées, en raison de leur impact écologique aussi.
Donc là, c'est quoi ? C'est le... enfin, je sais pas, ce qui vient tout de suite en tête, c'est l'agent orange, les défoliants, les trucs que les Américains balançaient sur les forêts pour faire tomber le feuillu et voir les guerriers en dessous, c'est ça ?
Absolument. L'agent orange a cristallisé ces débats-là, à la fois parce qu'il a des conséquences extrêmement fortes sur la nature, enfin sur le couvert végétal, mais aussi sur les populations civiles, avec des effets sanitaires à long terme qui ensuite ont été attestés. Il n'y a pas uniquement l'agent orange, il y a aussi le napalm qui a eu cette connotation, disons, écologique d'une certaine manière, avec donc des bombes incendiaires qui détruisaient de grandes parties aussi des écosystèmes. Et j'ajouterais aussi un élément moins connu qui est l'ensemencement des nuages. C'est-à-dire que pendant la guerre du Vietnam, une opération qui s'appelle l'opération Popeye a consisté à faire pleuvoir, disons, les Américains, notamment la Air Force a utilisé de l'ensemencement, ce qu'on appelle le cloud seeding aux États-Unis, c'est le fait de balancer de l'iodure d'argent dans les nuages pour faire pleuvoir, en espérant peut-être embourber les insurgés, en tout cas limiter leur capacité de mouvement. Une technique qui a été très décriée à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi opérationnel, puisque les gains opérationnels de ces pluies sont pour le moins difficiles à évaluer, voire peut-être parfois contre-productifs, puisque ceux qui avaient besoin de se déplacer avec des véhicules terrestres lourds, c'était plutôt les Américains en l'occurrence.
Et écologiquement, qu'est-ce que ça faisait ? C'est-à-dire, ça restait le bromure d'argent ?
Oui, voilà, le l'iodure d'argent avait l'inconvénient quand même de rester dans les sous-sols, de polluer quand même durablement la région. Moins que l'agent orange tout de même, il faut le signaler, l'agent orange c'était vraiment une catastrophe écologique à tel point que le terme d'écocide qu'on entend un peu aujourd'hui est beaucoup né en fait, et des controverses autour de l'agent orange. Et l'écocide, pour rappel, ce sont les crimes environnementaux. Et la première fois qu'on a commencé à parler de crimes environnementaux de guerre, c'était avec l'agent orange, précisément.
Alors, c'est intéressant parce que je pense, maintenant ça fait un demi-siècle, c'est encore palpable aujourd'hui. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose des années 70 et 80, de l'immédiat après-guerre du Vietnam? Ou est-ce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit? Parce que ça pose la question aussi de la temporalité. C'est-à-dire, quand on casse l'environnement, ça dure très longtemps. Il y a une inertie à tout ça, quoi.
Dans le cas de l'agent orange, on a des effets qui sont encore visibles aujourd'hui, à tel point que dans les années 2000, les États-Unis ont lancé des opérations de dépollution au Vietnam, en accord avec le gouvernement vietnamien. Et même que la controverse juridique continue, en fait, avec des victimes de l'agent orange qui, encore aujourd'hui, et les descendants aussi des victimes de l'agent orange, qui se mobilisent pour obtenir des compensations financières. Donc la controverse écologique continue, les effets écologiques continuent, la controverse juridique suit également. Donc effectivement, le problème des conséquences environnementales des conflits, c'est qu'elles durent extrêmement longtemps. La temporalité, comme vous le disiez dans votre introduction, est extrêmement importante. C'est très large. Et quand on utilise une arme comme l'agent orange, ou en tout cas qu'on utilise des armes qui ont des effets durables sur l'environnement, ça dépasse très largement le cadre de la guerre. Et c'est là que le problème émerge aussi. C'est-à-dire que quand est-ce que finit la guerre finalement aussi, d'une certaine manière.
Mais est-ce que ça a fait une sorte de prise de conscience auto-réflexive par l'armée américaine en l'occurrence, ou plus généralement les institutions militaires, ou est-ce que c'est venu de, je sais pas, d'organismes internationaux non militaires, enfin civils, enfin, je veux dire, est-ce que c'est les armées qui se sont dit, ok, là on est allé trop loin, c'est non seulement contre-productif mais en plus pas bien dans l'absolu, ou est-ce que ils sont arrêtés là et c'est par la bande en quelque sorte que les dégâts sont venus les rattraper?
Dans le cas de l'agent orange, plus particulièrement, après il faudrait distinguer le napalm et l'iodure d'argent. Dans le cas de l'agent orange, plus particulièrement, ce sont les vétérans qui ont aussi beaucoup porté cette controverse, les vétérans américains qui ont déposé des plaintes contre les entreprises qui étaient chargées de la production de l'agent orange pour l'armée américaine, pour obtenir des compensations eux-mêmes. Donc il y a eu quand même une pression juridique assez forte de la part de ces vétérans, de la part des victimes vietnamiennes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le droit international humanitaire a donc aussi évolué. Enfin, il faut dire aussi, on a eu la convention NMOD qui est entrée en vigueur en 1978, qui, elle, bannit les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires. Donc on a une évolution, et surtout, c'est pas tellement en fait au niveau de la légalité de l'utilisation de ces armes que de leur légitimité. Il est devenu, après le Vietnam, extrêmement difficile de justifier l'emploi de telles armes, notamment de la part d'une armée américaine qui voulait se présenter aussi comme vertueuse, en tout cas qui, dans les conflits, notamment post-guerre froide, avait la vocation de se présenter comme légitime aussi, d'une certaine manière. Donc ces armes sont devenues illégitimes, d'une certaine manière, plutôt qu'illégales, et donc sont progressivement sorties, effectivement, de l'arsenal, disons, de moyens déployés par les armées, par l'armée américaine, en l'occurrence.
Alors ça, on reparlera évidemment des conséquences environnementales des conflits et des conflits ouverts, mais le fait militaire évidemment dépasse la guerre, c'est-à-dire c'est plus large, c'est plus continu, et ça a aussi une empreinte environnementale plus large. Justement, à quel moment est-ce qu'il y a des armées qui, même hors conflit, sont demandées, je vais lire, donc vous signez un article dans ce numéro des Champs de Mars, vous replacez ça notamment dans le contexte américain, et vous dites que les États-Unis en fait sont très précurseurs là-dedans. Alors il y a des flux et des reflux dont on va reparler, mais en gros c'est plus ou moins aux États-Unis que, après la guerre froide, ils se sont dit que il fallait commencer à réfléchir un peu à la pollution. À l'époque c'est sous le vocable de pollution que cette question-là se pose.
Oui, absolument. C'est en fait l'évolution du droit de l'environnement aussi aux États-Unis qui fait que de plus en plus les territoires militaires, enfin les terrains militaires sont concernés par ces législations. Il devient de plus en plus difficile de négocier des exemptions pour les activités de défense, et notamment après la fin de la guerre froide, puisque à cette époque-là, on est dans des gouvernements aussi démocrates qui poussent aussi pour la thématique environnementale, et la pression, disons, normative est à son paroxysme pour
Et
les
qu'est-ce qu'ils
États.
cherchent à éviter? C'est quoi? C'est les champs de tir où on laisse plein de ferraille dans le sol après? Enfin, c'est quoi
Alors
le...
les cas qui ont été portés, disons, devant la justice américaine concernent principalement la gestion des déchets, des pollutions chimiques notamment, qui étaient, disons, gérées de manière assez secrète, on va dire, voilà, assez aussi parfois mauvaise manière. Enfin, on a vu l'exemple de déversement de produits chimiques dans des espaces protégés sur la côte ouest des États-Unis. Donc, on avait en fait toute une exemption défense qui faisait qu'il était, disons, qu'il y avait des circuits particuliers de traitement des déchets qui n'étaient pas ceux qui devaient être, qui étaient légaux en fait en réalité. Donc, c'était principalement les pollutions chimiques, c'était aussi les pollutions de munitions, mais c'était aussi plus généralement la protection des écosystèmes et des espèces protégées. C'est-à-dire qu'il y a des espèces protégées aussi sur les champs de tir et sur les terrains militaires. Et
Rappelons, on a tendance à
oui.
l'oublier de temps en temps, mais que les terrains militaires aux États-Unis comme en France, comme partout,
C'est considérable, oui.
c'est incroyablement vaste, quoi.
Incroyablement vaste, oui, c'est incroyablement vaste. Et à cela s'ajoute le fait que dans les années 90, le département de la Défense a voulu céder un grand nombre de ces terrains, pour des raisons économiques aussi, au gouvernement américain et à des administrations, ce qui fait qu'elles ont dû dépolluer aussi très largement ces terrains. Et
Je veux dire,
donc,
quand on passe devant le notaire et qu'on fait le diagnostic pollution,
voilà,
ça commence
exactement.
à devenir compliqué.
C'est un peu l'idée, voilà. Donc, il y a effectivement toute une mise. Enfin, il faut mesurer des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans les efforts de dépollution aux États-Unis des terrains militaires en vue de leur cession aussi. Ce qui a contribué à la réflexion aussi sur l'impact écologique des activités de défense sur le territoire national cette fois-ci.
Alors qu'est-ce qui s'est passé donc dans ces années 90? C'est-à-dire que comment est-ce que ça a progressé? Parce qu'on mesure qu'on partait quand même de très loin, il n'y a pas si longtemps. Comment est-ce que ça s'est, je ne sais même pas si ça s'est institutionnalisé, ou en tout cas, comment est-ce que ça a fait son chemin, ce souci de pas trop déglinguer l'environnement partout autour des activités militaires?
Bah, comme vous le sentez depuis tout à l'heure, c'est surtout pour limiter une faille juridique en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait enfin, il y avait possibilité pour des personnes qui seraient victimes de ces pollutions chimiques ou qui, voilà, qui seraient impactées par voilà, un certain nombre d'activités de défense dans leur voisinage aussi, des bases militaires, de porter plainte contre le département de défense. Donc ça s'est institutionnalisé. Le département de défense a créé des bureaux chargés de la dépollution, chargés de la gestion environnementale des sites militaires, ont investi de l'argent, ont dû investir de l'argent pour gérer justement les externalités négatives, finalement, des activités de défense. Voilà, le motif derrière tout ça, principalement, est juridique, je pense. En tout cas, c'est en tout cas ce que j'ai étudié dans ma thèse. Sachant qu'aux États-Unis, vous le savez, le droit est quelque chose d'extrêmement. Enfin, c'est un instrument extrêmement puissant, voilà, parfois pour récupérer l'argent, pour faire reconnaître des torts, etc. Donc les Américains sont peut-être aussi très procéduriers, ce qui a pu aider le développement de ces bonnes pratiques, disons, sur les terrains militaires, sur le territoire national.
Ce qu'on sait aussi, c'est que l'environnement et la préoccupation écologique aux États-Unis a moyennement bonne presse encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet très clivé, donc on mesure qu'il y a dû aussi y avoir des résistances dans les années 90.
Énormément, énormément de résistance.
On sent assez bien qu'il y a des gens qui ont dû dire que c'était un truc de hippie et que ça n'avait
Complètement.
pas sa place dans l'armée, quoi.
Complètement. J'ai des rapports de la commission des forces armées au Sénat des États-Unis qui sont passionnant à ce sujet, avec notamment quelqu'un qui s'appelle John McCain, qui à l'époque s'opposait viscéralement à toute forme de régulation environnementale des activités militaires, mais qui incarnait quelque chose, voilà. Et dans les entretiens que j'ai pu faire avec les personnes qui s'occupaient de la dépollution à l'époque aux États-Unis, il était très clair que quand ils sont arrivés, il est très clair quand ils sont arrivés au Pentagone, avec leur bureau, il y a un bureau notamment qui s'appelait le bureau de la sécurité environnementale qui s'occupait spécifiquement de ça, ils n'ont pas été très bien reçus, voilà. On leur disait, voilà. Que c'était pas voilà, ça faisait pas partie des missions de défense de s'occuper de l'environnement, que ça empêchait. Alors à l'époque, il y avait un terme qui s'appelait encroachments, qui est l'empiètement, en fait, ça empiétait très largement sur les activités militaires. Et comme il y avait cette idée de s'entraîner comme on combat, si on s'entraîne en protégeant l'environnement, bon, on se
On
limite.
risque de protéger l'environnement en pleine guerre, et ça, personne ne veut que ça arrive.
Et disons, on se limite au niveau opérationnel, voilà. En tout cas, à l'époque, c'était le très très puissant comme discours, et c'est encore aujourd'hui d'une certaine manière, oui.
Alors ensuite, si on reste sur les États-Unis, il y a un deuxième facteur qui est très intéressant que vous identifiez pour pousser tout ça, c'est la prospective de défense. Alors c'est ce qu'on a parfois pu appeler les future studies, qui existent depuis très longtemps, qui existent depuis au moins les années 60, mais qui se mettent en fait à penser le facteur, en l'occurrence réchauffement climatique, plus que pollution directement, c'est-à-dire les conséquences à long terme, en fait dans les années 2000, et voilà, y voir une sorte de risque stratégique, quoi.
Oui, enfin, le discours de prospective climatique a été beaucoup plus facile à recevoir au sein de la défense que celui de la protection de l'environnement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ben, vous le sentez bien, le changement climatique, en tout cas, de plus en plus, on se rend compte qu'il a des conséquences importantes, effectivement, en termes socio-économiques, politiques, mais aussi des problèmes de sécurité. Enfin, le changement climatique, il est maintenant établi par différentes études et rapports qu'il pourrait nourrir des conflits, nourrir des tensions. Voilà, le terme qui est utilisé dans la prospective américaine de défense, qui a beaucoup été repris, c'est le terme de multiplicateur de menaces. Voilà, le changement climatique est un multiplicateur de menaces.
C'est-à-dire, ça n'est pas une menace lui-même, mais c'est un exhausteur de ce qui se passe déjà.
Ce n'est jamais, disons, il n'y a jamais de guerre climatique pure ou de conflit climatique pur, mais en tout cas, le changement climatique aggrave des tensions préexistantes.
Voilà, et c'est amusant, vous dites, en fait, ce qui les préoccupe beaucoup à ce moment-là, donc début des années 2000, c'est l'Arctique et les Russes, et l'idée que les Russes vont pouvoir avoir plus d'accès aux mers par le pôle Nord, enfin par l'Arctique, par l'océan glacial Arctique. Et que donc, c'est en quelque sorte le fait maritime, le fait de navigation, qui fait que, ok, il faut peut-être commencer à penser ce truc qui modifie la planète sur le long terme.
Le fait maritime et le fait russe aussi. Disons que c'est vrai que le fait que la Russie puisse opérer dans les eaux américaines plus facilement, puisse traverser l'Arctique de manière plus régulière, plus facilement, ça renvoie dans la communauté de défense américaine, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut préoccuper, disons, pour des raisons historiques et pour des raisons bien sûr aussi purement stratégiques. Enfin, il n'y a pas uniquement du fantasme là derrière, il y a aussi des raisons très, très concrètes.
Mais là où c'est intéressant, c'est que ça recoupe un peu un phénomène qui est un peu un fil rouge en quelque sorte de votre article, puis du numéro et puis de ces problématiques-là. C'est un concept qu'on a parfois appelé la sécuritisation, c'est-à-dire c'est une manière de. Je vais peut-être vous laisser le définir, mais en gros, c'est pour faire prendre conscience d'un problème, pour faire avancer les choses, de définir un problème qui n'est pas particulièrement sécuritaire comme un problème de sécurité. Typiquement, le changement climatique, qui n'est pas un problème primairement de sécurité, mais le définir comme un problème de sécurité, ça permet de faire avancer le schmilblick qui sinon reste coincé parce que c'est lointain, quoi.
Oui, la sécuritisation de l'environnement, c'est un phénomène très intéressant. Comme vous l'avez dit, oui, c'est la construction sécuritaire d'un enjeu devant une audience qu'on appelle un public, disons. Il faut qu'il y ait quand même des personnes qui entendent votre discours et qui réagissent.
C'est-à-dire, c'est plus simple de dire, attention, si la glace fond, les Russes vont arriver devant l'Alaska, que de dire les ours polaires finissent sur un bout de banquise, quoi.
C'est un peu l'idée derrière, si vous voulez. Et l'idée, c'est de quand on a un discours de sécuritisation, c'est de solliciter des moyens exceptionnels aussi pour lutter contre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que la sécuritisation de l'environnement, historiquement, sont les écologistes qui l'ont fait beaucoup, pour mobiliser autour de l'enjeu écologique. Parce qu'il s'agissait de dire, bon, on court à la catastrophe, c'est encore un discours qu'on entend aujourd'hui, hein. On court à la catastrophe, on va vers des tensions, enfin, il faut agir le plus vite possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours de la sécuritisation, qui originellement était vraiment présent dans le discours écologique, a pas mal pénétré le discours militaire aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les personnes qui étaient convaincues au sein, notamment du Pentagone, puisque c'est l'article du Champ de Mars, des Champs de Mars, notamment au Pentagone, qui étaient convaincues de la réalité du changement climatique et de ses impacts sécuritaires, ont adopté ce discours-là assez facilement pour convaincre aussi leurs homologues qui étaient moins, disons, convaincus de la réalité du phénomène, ou peut-être parfois ouvertement climato-sceptique aussi, il faut dire ce qui est. Donc l'Arctique a servi vraiment pour sécuritiser le climat, effectivement, c'était l'endroit parfait, puisque même un vieux général américain, un vieil amiral américain qui est ouvertement climato-sceptique, si vous lui dites que dans 10 ans, la Russie va pouvoir opérer dans cet environnement, il va s'en occuper d'une manière ou d'une autre. C'est en tout cas ce que m'ont dit les personnes qui, d'ailleurs, c'est intéressant, c'était souvent les mêmes personnes qui s'intéressaient à la dépollution avant. Et qui ont dit, bon, la dépollution, très clairement, on a eu énormément de pushback, énormément de problèmes. Quand on a commencé à parler de climat et de l'Arctique, etc., on était beaucoup plus entendus. Voilà, on nous convoquait, on nous appelait, on lisait nos notes, voilà, on était beaucoup plus valorisés.
C'est hyper intéressant au-delà de tout ça, parce que ça pose la question fondamentale de comment est-ce qu'un sujet trouve son chemin dans un champ politique, mais aussi administratif, bureaucratique, etc. Et justement, on va en parler, parce que bon, Alors après, on peut dire l'étape suivante, c'est les deux mandats de Barack Obama. On reste sur les États-Unis, mais en même temps, on voit bien que ce dont on parle, ça s'applique à plein de choses et à plein de, ça s'applique aussi pas mal à la France, même si c'est pas les mêmes temporalités. On va en reparler. Mais bon, il y a les deux mandats de Barack Obama où là, clairement, c'est là qu'il y a une sorte d'intégration vraiment du réchauffement climatique comme un facteur stratégique à prendre en compte et à mettre au centre des politiques de défense, plus seulement comme une sorte de réveil, mais comme un, voilà, il faut, c'est par là qu'il faut pour penser la stratégie sur le long terme.
Oui, il y a un petit infléchissement à la fin de l'administration Bush, quand même, 2007, voilà, où on a quand même une fonte record dans l'Arctique, justement. On a des rapports voilà, de think tank, voilà, d'agences américaines qui alertent sur la zone arctique et voilà les risques que ça représente d'un point de vue sécuritaire. Donc déjà à la fin de l'administration Bush, on a déjà une petite conversion. Mais effectivement, le moment où aux États-Unis on parle le plus des impacts sécuritaires du changement climatique, c'est sous Barack Obama, où le sujet entre dans tous les documents de doctrine, tous les principaux documents de doctrine voilà américains, et où des financements sont alloués à des bureaux qui sont chargés voilà, d'étudier les effets sécuritaires du changement climatique, ou alors on commande des rapports à des think tanks, ce qui se fait beaucoup aussi aux États-Unis, aussi en France maintenant, bon, de plus en plus, pour étudier justement quels sont les impacts, alors plus seulement en Arctique maintenant, hein, mais on s'intéresse au Moyen-Orient, on s'intéresse à l'Afrique, on s'intéresse à l'Indo-Pacifique, enfin on essaie vraiment de faire une cartographie un peu des risques sécuritaires dans le monde. Ce qui est intéressant aussi sous Barack Obama, c'est que c'est plus seulement du point de vue de la sécurité nationale, internationale, c'est aussi d'un point de vue plutôt sécurité humaine. Enfin voilà, vraiment comment peut-être, avec les questions de développement aussi, on peut empêcher les populations de bouger, enfin, faire des programmes humanitaires de développement dans certaines régions. Donc il n'y a plus uniquement, visons, la perspective militaire aussi. Il y a aussi, comme ça se fait beaucoup maintenant, un lien entre développement, sécurité et... les changements climatiques en l'occurrence. Donc c'est une approche, disons, mainstream maintenant. C'est devenu vraiment mainstream sous Barack Obama, cette idée de sécurité climatique. Et ça a dépassé très largement le cadre de la défense. Mais bien sûr, la défense, le Pentagone a fait énormément pendant ce mandat-là. Et d'ailleurs, en 2016, à la toute fin donc, des deux mandats de Barack Obama, il y a eu la première directive vraiment qui a imposé aux forces armées, au Pentagone, d'inclure le changement climatique dans leurs réflexions stratégiques, dans leurs prospectives. Pour voilà, anticiper un peu ce que ça a comme impact pour leurs opérations aussi à l'étranger.
Alors souvent, quand on a une grande avancée, on a un léger mouvement retour en arrière, et évidemment, c'est les mandats de Donald Trump qui sont extrêmement intéressants, je trouve, de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'il coupe beaucoup tous ces budgets liés à la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, on sait que bon, voilà, c'est le grand mouvement, tout ça est placardisé, rayé d'un trait de plume autant que c'est possible, mais justement, c'est pas totalement possible, et on voit, enfin vous détaillez très bien que ce sont des préoccupations qui vont survivre et continuer à avancer presque contre le politique ou dans ses interstices, notamment par logique ou par inertie bureaucratique, et c'est ce que vous décrivez, en adaptant les actions concrètes, en les reformulant légèrement pour que ça passe sous le radar trumpien, enfin sous le radar du pouvoir politique. C'est extrêmement intéressant sur la manière dont un problème, une fois qu'il est posé, il peut survivre en quelque sorte à des aléas politiques, à une instabilité politique, où une grande impulsion de long terme, en fait, elle a une inertie, elle a une logique de fond, quoi.
Oui, sachant en plus que le processus de changement d'une administration aux États-Unis s'accompagne d'un processus de nomination qui est extrêmement long, complexe, et les équipes, en fait, les bureaucrates qui travaillent notamment au Pentagone, ne changent pas du jour au lendemain. Enfin, il ne faut pas croire que tout change au moment où il y a l'élection et où il y a les nominations. Et d'autant plus que Donald Trump, étant un outsider et ayant peu de relais aussi dans certaines administrations, il a eu beaucoup de mal, en fait, à changer complètement toutes les... à modeler complètement les administrations à son goût. Donc ce qui s'est passé, et moi c'est intéressant parce que je suis arrivé en 2017 aux États-Unis, ce qui s'est passé de très intéressant, c'est que dès qu'il voyait un programme avec écrit environnement, climat, etc., notamment au Pentagone, bon, il le supprimait. Il supprimait surtout d'ailleurs la personne qui était en charge de ce programme, qui souvent devait aller dans les think tanks après, enfin c'était ce jeu d'aller-retour. Mais en revanche, il restait quand même un certain nombre de personnes au sein de ces organisations qui continuaient de travailler sur ces sujets, enfin qui avaient l'habitude de travailler sur ces sujets, et qui effectivement sont des personnes qui sont convaincues de l'importance de ces sujets, et donc on, comme vous l'avez justement dit, reformulé certains programmes. On parlait plus de changement climatique, on parlait d'évolution de la météo ou d'évolution des conditions, etc. On parlait plus d'environnement, mais on parlait plutôt de disons, on parle plus d'environnement, mais opérationnel, vous voyez. Enfin, il y avait tout un ensemble de stratégies, disons, discursives, qui faisaient qu'on essayait d'éviter que le pouvoir politique supprime les programmes. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant le mandat de Donald Trump en matière de politique environnementale de défense et politique climatique de défense. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ce qui s'est passé collait assez bien, finalement, au trumpisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pendant le mandat de Donald Trump, les principales études qui ont été publiées sur ce lien entre climat et défense ont été des études sur le territoire américain. C'est-à-dire America First, encore une fois. Il s'agissait de, notamment, faire attention aux infrastructures civiles et militaires sur le territoire américain qui sont menacées par le changement climatique. On s'intéressait beaucoup moins, peut-être, à l'international, mais beaucoup plus à ce qui se passait aux États-Unis. Et notamment, l'Army, la Navy et l'Air Force ont dû, pendant cette période-là, lister les 10 bases qu'ils considéraient comme les plus vulnérables au changement climatique. Et ça s'est fait pendant le mandat de Donald Trump. Bon, c'est le Congrès qui l'a demandé, donc c'est pas vraiment issu de la présidence, mais ça s'est quand même passé pendant le mandat de Donald Trump. Donc, même en matière de politique climatique de défense, on voit que c'est d'abord les États-Unis. Voilà. D'abord nos vulnérabilités à nous, et ensuite, peut-être, on verra pour le reste. Mais il y a eu beaucoup d'études sur les infrastructures, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, a inspiré beaucoup en France aussi, puisqu'on se rend compte aussi en France maintenant que beaucoup de nos infrastructures militaires, notamment sur nos côtes, sont menacées d'érosion, etc.
Donc, justement, c'est peut-être le moment de commencer à faire ce pas et oui. À parler de la France, parce que, voilà, quand est-ce qu'on s'approprie ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une influence directe américaine ? Après tout, je veux dire, c'est des armées alliées au sein de l'OTAN, on sait qu'il y a des procédures d'harmonisation, il y a du dialogue, etc. Ou est-ce que ça prend plus de temps, ou est-ce qu'il faut attendre que, en quelque sorte, l'administration, l'état-major français se saisisse de ça lui-même, le pouvoir politique aussi peut-être. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une communication de ces soucis, ou est-ce qu'on y a un décalage, et quand est-ce que ça arrive en fait ?
Alors l'harmonisation au niveau de l'OTAN a longtemps été compliquée, puisque l'OTAN ne s'est pas vraiment occupé d'environnement et climat pendant les années 2000 notamment. Aujourd'hui, ils rattrapent énormément leur retard. Il y a un plan d'action sur le changement climatique qui a été qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc l'OTAN monte en puissance sur ces sujets, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Ils travaillaient essentiellement sur les questions d'énergie. Si on devait faire un lien avec l'environnement, ce serait plutôt ça. Avec le centre d'excellence de Vilnius, notamment. Donc, c'était des questions de sécurité énergétique, d'énergie en opération, etc. Donc, il n'y a pas eu tant de ça de circulation de normes, si on veut. Ce qui a changé la chose en France, c'est, bon, on a été plus tardif par rapport aux États-Unis. C'est le.
Ça, on peut dire les livres blancs 2008, 2013, même 2017, il n'y a pas grand-chose.
Hein. Alors, 2008, oui. Justement, j'allais y venir. En fait, il y a le Grenelle de l'environnement qui, quand même, en 2007-2008, convoque tous les secteurs d'action publique pour réfléchir à la transition écologique. On a aussi la stratégie nationale de développement durable qui entre en vigueur à cette époque-là. Donc, le ministère des Armées, comme tous les autres ministères, est censé décliner cette stratégie au niveau ministériel. Donc, on commence à avoir des bureaux qui sont créés et... Au ministère des Armées, c'est la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives qui se dote d'un bureau environnement pour décliner cette stratégie nationale.
Alors, on rigole, on sourit, l'auditeur entendra peut-être qu'on sourit, mais ça indique que donc, c'est une priorité assez secondaire sur le moment. Si on donne ça aux archives, qui sont par ailleurs un département tout à fait essentiel, et très important et très valorisé. Mais en tout cas, on sent bien qu'il n'y a pas une priorité opérationnelle frénétique si c'est là qu'on met... Les organigrammes sont toujours révélateurs, c'est toujours important de voir où on met quoi.
C'est possible, et en tout cas, c'est vrai que ça a été construit en fait comme la question environnementale, quand elle est arrivée au ministère des Armées, était construite comme un problème domanial, de gestion des terrains militaires une nouvelle fois. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on a lié ça aux questions du patrimoine, et donc on a lié ça à la DPMA, qui, voilà, depuis maintenant, donc 2008, s'occupe de ces sujets, encore aujourd'hui d'ailleurs, le Bureau Environnement s'occupe de ces questions. Et oui, donc c'est logé à la DPMA, c'est pas logé à la DGA, c'est pas l'état-major des armées, c'est pas les services les plus, disons, doté, en tout cas symboliquement ou économiquement, du ministère. Ce qui nous dit, oui, effectivement, peut-être quelque chose. Mais en 2008, il y a quand même une volonté d'afficher dans le livre blanc le changement climatique aussi comme un enjeu. Et c'est la première fois, donc en 2008, qu'on a un petit paragraphe consacré au changement climatique, qui est assez, qui est assez court, mais qui a le mérite d'exister quand même. Mais on est dans un moment Grenelle, moment stratégie de développement durable, voilà, un peu un hotspot. Et d'ailleurs, pour aller au livre blanc de 2013, ça disparaît complètement. Si vous lisez le livre blanc de 2013, il n'y a plus de mention du changement climatique, il n'y a plus de mention de l'environnement, tout cela a complètement disparu. Ce qui montre le peu d'attache que l'enjeu a pris aussi au sein du ministère des Armées dans ces années-là. il y a quand même des choses qui se font. Voilà, donc encore une fois, comme aux États-Unis, l'enjeu de la dépollution est très important en France aussi, l'enjeu de la protection de la biodiversité sur les terrains militaires. Il y a des conventions qui sont passées avec différentes agences, notamment pour la protection des forêts. Enfin, vous savez, comme on le disait tout à l'heure, hein, en France comme aux États-Unis, la défense possède un patrimoine considérable qu'il faut...
Je disais, je ne sais plus où, c'est quelque part dans le numéro, que c'est genre 30% du domaine public en France. Quoi. Enfin, du patrimoine foncier public en France, c'est des terrains militaires.
C'est extrêmement conséquent. Et ce qui est paradoxal, on pourrait dire presque, c'est que ce sont des terrains qui sont assez bien conservés, finalement. Parce que ils sont pas été l'agriculture forcément n'est pas passée par là, ce sont des espaces assez préservés finalement où il y a quand même des niches écologiques, où il y a quand même des endroits qui sont pas complètement pollués.
Quand les marmottes arrivent à s'allumer entre les obus etc, elles sont bien.
Voilà, c'est ça. Disons qu'il y a pas que des champs d'exercice d'obus aussi. Il y a des terrains militaires, disons, où des espèces vivent, etc. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps. Voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps avec des agents qui étaient chargés des bonnes pratiques sur les bases militaires, avec donc une coordination par la DPMA. Donc c'est arrivé par ce prisme-là, comme c'était le cas aux États-Unis, hein, si vous le voyez, hein, avec un peu de décalage, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a quand même en parallèle quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, cette fois-ci à la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Le Clémenceau est passé par là. On a commencé à réfléchir aussi à l'obsolescence.
Donc le Clémenceau, rappelons, c'est donc évidemment le porte-avions qu'on a envoyé se faire des océans en Inde,
voilà.
Et que disons que symboliquement c'était pas foufou, et que ça a commencé à poser quelques questions sur la durabilité, enfin le côté développement, enfin durable quoi, de tous ces tas de ferrailles qu'il y a partout dans le monde de la défense. C'est beaucoup de ferrailles, la défense.
Et oui, exactement, et on voit que c'est un enjeu aussi stratégique, puisque en termes d'image, en termes de même de financier, enfin stratégique et financier, puisque ça coûte énormément d'argent aussi de démanteler des navires qui sont bourrés d'amiante, bourrés de composants qui se dégradent très mal. Enfin, donc ça coûte très cher, le démantèlement. Et le Clémenceau, on se rappelle tous de son... Tout le monde le renvoyait, on a fini par le faire démanteler ailleurs. Mais ça a joué quand même médiatiquement sur la question environnement, sinon au sein de la défense. Et il y a aussi une directive qui est rentrée en vigueur dans les années 2000, c'est la directive REACH, qui est une directive qui impose à l'industrie civile, mais aussi militaire, de bannir certains composés chimiques qui sont considérés comme particulièrement polluants. Et cette directive a été reçue de manière assez violente par le ministère des Armées, qui donc a dû adapter en un laps de temps très court.
Directive européenne, précisément.
Européenne, pardon, oui, excusez-moi, c'est une directive européenne, il faut bien le préciser, qui donc n'a pas été très bien anticipée forcément, et qui donc a poussé la défense à consentir à d'importants efforts avec les industriels pour bannir certains composés qu'ils utilisaient depuis des années, en réalité. Donc il y a ce sujet environnement qui arrive aussi par ce prisme-là, du point de vue industriel.
Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est fonctionnellement ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours ce département qui est à la DPMA ? Est-ce que ça s'est multiplié ? Enfin, est-ce qu'il y a des structures, ou même ne serait-ce que des documents, quoi, qui mettent en place ces adaptations, qui donnent des programmes, qui donnent des directives, qui donnent une philosophie générale ? Ou est-ce qu'on est toujours un peu dans cette phase transitoire d'implémentation, enfin, d'incorporation progressive du souci environnemental que vous nous décriviez?
Alors, on l'a été pendant très longtemps. Je crois qu'en ce moment, on est en train de vivre un moment où le sujet devient de plus en plus important au ministère. Et c'est surtout le sujet climat, encore une fois, qui, comme aux États-Unis, porte la thématique environnement, très largement. C'est toujours la DPMA et le bureau environnement qui s'occupent donc de tout ce qui est gestion de manuel, etc., avec le service d'infrastructure de la défense, bien sûr. Donc, cela existe toujours, hein, à ce niveau-là, niveau très technique. Au niveau de l'éco-conception des équipements de défense, on a maintenant la DGA qui a une cellule éco-conception qui existe depuis la fin des années 2000, début des années 2010, et qui essaye de sensibiliser les industriels aussi en interne sur la nécessité d'adopter des matériaux qui seront plus faciles à démanteler, de montrer que il y a un intérêt, disons, financier stratégique à faire de l'éco-conception ou de la climato-conception aussi éventuellement. Donc ça existe encore à la DGA. Et depuis maintenant la COP21 surtout, là j'insiste sur le moment COP21 qui a été très important au ministère des Armées. Donc la COP21, pour rappel, c'est la conférence sur les changements climatiques qui s'est tenue à Paris en 2015. À ce moment-là, le ministère des Armées n'avait pas vraiment, donc je vous ai dit tout à l'heure, le livre blanc de 2013 n'incorporait pas la question du climat. On est en 2015, donc le ministère des Armées décide de se positionner sur cette thématique et organise un événement et décide, avec la création de la DGRIS en 2016, de financer un observatoire, qui est un observatoire sur les effets géopolitiques du dérèglement climatique. En 2016, on est donc en 2016. Et donc la DGRIS se saisit, voilà, et devient au sein du ministère l'endroit où se fait la prospective dont on parlait tout à l'heure en matière de sécurité climatique à travers cet observatoire essentiellement. On est à l'époque dans un observatoire qui est hébergé à l'IRIS, donc le think tank de l'IRIS, qui échange régulièrement avec le ministère, mais on est sur quelque chose quand même qui est assez périphérique, vous le sentez bien, hein, donc un observatoire externe qui renseigne la DGRIS, qui n'est pas non plus au sein du ministère l'endroit, voilà. C'est pas l'état-major des armées encore ou d'autres services voilà, centraux, disons. Et qui, surtout que c'est nouvellement créé, ça a remplacé la DAS récemment, donc on n'est pas sur une thématique climat. Alors, qui
rappelons, la DGRIS, c'est la Direction Générale de la...
De la Relation Internationale de la Stratégie, oui, absolument. Et la DAS, c'était la Délégation des Affaires Stratégiques.
C'est des organismes qui sont importants à long terme pour la prospective. On peut dire, d'ailleurs, le collimateur émane de la DGRIS, l'IRSAM est plus ou moins attaché à la DGRIS. Oui. Bon, c'est important, mais c'est pas... C'est pas là qu'on compte le plus d'étoiles dans les couloirs.
Voilà, exactement. C'est pas d'ailleurs, c'est disons un constat qui est fait. Hein. C'est vrai que ce sont des entités un peu moins, disons, ancrées dans les logiques ministérielles que peut l'être, par exemple, l'état-major des armées. Donc pendant des années, la DGRIS a poussé quand même ce sujet, a essayé de l'imposer en interne. En 2017, on a une revue stratégique qui prend en compte hein, le changement climatique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui est un moment important, on a eu la première stratégie climatique du ministère qui est sortie là en début d'année. Donc on est dans un moment aujourd'hui où l'état-major des armées justement s'est saisi de cette question. Donc on est dans un moment aujourd'hui où peut-être que tous ces efforts, comme je vous disais tout à l'heure, donc, qui étaient au départ assez... chacun de leur côté, voilà. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de centralisation qui est en train de s'opérer. Et peut-être que le sujet va devenir plus important, 2022, 2023, 2024, à mesure que l'OTAN monte en puissance sur ces sujets-là aussi, avec notamment la création, je le souligne aussi, d'un centre de la sécurité climatique à l'OTAN, qui va être créé au Canada. Et donc on a un alignement, disons, qui se fait aujourd'hui très important sur ce sujet de défense et climat, plutôt que défense et environnement d'ailleurs.
Historique et puis aussi institutionnel, puisque c'est comme ça qu'on peut voir, qu'on peut mesurer en quelque sorte la prise de conscience progressive des armées. Ça se mesure aussi dans un organigramme, c'est à ça qu'on voit que ça monte en quelque sorte. Mais maintenant, si on peut passer à une perspective disons, un peu plus opérationnelle, on peut, voilà, peut-être c'est le moment d'en parler. Je pense qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut le dire, ça pollue énormément des armées. Alors d'abord, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a les conséquences environnementales quand on combat vraiment, par exemple dans une guerre de haute intensité comme en Ukraine, ou même d'ailleurs dans un conflit de contre-insurrection comme au Sahel. Pour le dire clairement, faire la guerre, ça implique de faire voler, exploser beaucoup de ferraille, et ce n'est pas exactement le geste écologique, le plus écologique de la Terre. Et par ailleurs, on va quand même ensuite rarement ramasser et balayer ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la guerre, mais même sans aller jusque-là, parce que c'est quand même relativement exceptionnel. Si on prend le fonctionnement quotidien de n'importe quelle armée, quelle unité, n'importe quel corps d'armée, c'est-à-dire tout marche à l'essence, il en faut des quantités énormes pour faire avancer les choses, on le voit très clairement, ne serait-ce qu'en Ukraine aujourd'hui. Et surtout, ce qui me semble central derrière ça, et j'en parlais un peu au début, c'est qu'il y a une question de priorité, quoi. Quand une armée ou une unité opère, soit qu'on agit pour protéger la patrie, soit qu'on s'entraîne pour y être prêt en cas de besoin. Et donc la préoccupation environnementale a tendance à passer un peu à l'arrière-plan devant ce truc assez existentiel à court terme qu'est la guerre. Donc voilà, la question c'est de quelle manière et pourquoi est-ce que les armées arrivent malgré tout à intégrer dans leur fonctionnement quotidien cette préoccupation de mesure, de limiter un peu leur empreinte écologique.
Il y a une nécessité, une réflexion qui est poussée sur l'alignement entre les objectifs écologiques et objectifs stratégiques. C'est-à-dire que les militaires sont consentent à faire des efforts écologiques à partir du moment où ils en obtiennent un gain stratégique. Et ça se décline de différentes manières. Vous pouvez parfaitement, en opération extérieure, décider de protéger l'environnement. Si vous voulez notamment ne pas vous aliéner la population locale, si vous voulez notamment vous insérer de manière plus facile dans le dialogue avec les populations locales, ce qui a été fait par les États-Unis en Afghanistan, en Irak, où il est explicitement dit aux soldats de ne pas détruire les champs, de ne pas détruire les arbres fruitiers, d'aménager vraiment le plus possible d'empêcher la destruction de ce qui fait ce qui permet aux populations de survivre pour maintenir le dialogue avec elles. Voilà, donc on voit qu'il y a un alignement qui peut exister entre objectifs stratégiques, objectifs écologiques. Ça peut aussi se décliner d'une autre manière, à savoir que quand vous êtes en opération, vous avez aussi donc effectivement besoin d'énergie et besoin de fuel en particulier. Les Américains, encore une fois, se sont rendus compte que l'approvisionnement en fuel sur nos opérations extérieures, c'est un problème logistique, mais c'est aussi un problème stratégique, à savoir que les convois d'approvisionnement étaient très régulièrement attaqués, notamment en Irak, par les insurgés.
Donc, il y a le chiffre quelque part pareil, mais c'est genre 3000 morts en 10 ou 15 ans, juste sur les convois d'essence, quoi.
Exactement, c'est considérable, sans compter la perte financière que peuvent représenter ces attaques, etc. Donc on s'est rendu compte que l'approvisionnement en fuel n'était peut-être pas l'alpha et l'oméga, disons, de la logistique en opération, et qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres manières de consommer de l'énergie en opérations extérieures. Là, commence à, et en France, on a un projet qui s'appelle EcoCamp, qui est testé en ce moment même, commence à émerger une réflexion sur l'indépendance énergétique, finalement, des camps en opérations extérieures, avec la nécessité de réduire ces convois d'approvisionnement, et peut-être en utilisant des sources d'énergie différentes. Alors, on n'est pas sur des camps militaires qui utilisent des éoliennes ou qui utilisent nécessairement que des panneaux solaires, mais il y a un mix.
Cela dit, au Sahel, ce n'est pas plus idiot que ça. Hein.
Exactement, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais y venir, en fait, dans le cas du Sahel, ou même dans les théâtres d'opération, disons, africains, les panneaux solaires sont essayés. Enfin, y a des expérimentations qui sont faites sur les panneaux solaires qui aident finalement au mix énergétique et à réduire aussi la... Bon, on est sur des guerres qui sont de plus en plus électrifiées aussi, avec des ordinateurs, avec des climatiseurs, etc. Donc...
Et c'est marrant, mais je repensais, il y a tout ce moment dont on parlait, je crois que c'était avec le désormais chef d'état-major des armées qui est Thierry Burkhardt, sur du moment félin. C'est-à-dire cette espèce de moment où on a essayé de mécaniser le fantassin, de lui mettre plein d'électronique partout. Et où en fait tout le monde s'est aperçu que c'était tout bête, mais il n'y avait pas de prise dans les camps, dans les bases avancées, etc. Personne n'avait pensé à l'électrification pour charger ces trucs-là. Et du coup, c'était pas intégré. Tout fonctionnait à l'essence pour les besoins énergétiques. Et il n'y avait pas nécessairement le stade électricité, quoi. Donc il y a une sorte de retard. Mais c'est aussi intéressant parce que ça pose la question de l'inertie des équipements militaires. Ça dure très longtemps.
Ça dure très longtemps. Un programme d'armement, un programme d'équipement aussi, ça dure extrêmement longtemps. Et. Dans le cas, par exemple, des panneaux solaires, le problème, et en général de l'électrification, le problème, c'est celui des batteries aussi. Et je parlais avec des logisticiens qui me disaient que transporter du fuel, ils savaient très bien faire, mais transporter des batteries en très grand nombre, c'est une toute autre affaire. Notamment quand on va au Sahel, depuis la France. Enfin, ce sont des logistiques complètement différentes. Donc il y a toute une culture à changer, mais il y a aussi des pratiques. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver nécessairement.
Parce que même si on regarde, il n'y avait pas si longtemps, il y avait Eurosatory, le grand salon de l'armement, de l'armée de terre, etc. On regarde, ils n'ont pas l'air hyper hybrides, ces véhicules. Même les Griffons, là, qui sont en train d'être livrés à l'armée de terre. Alors, ils sont en l'état, ils ne le sont pas, en tout cas.
En l'état, non, mais c'est en cours. L'hybride est quelque chose d'intéressant, notamment parce qu'on s'est rendu compte en opération extérieure que beaucoup de véhicules sont stationnés. Et pendant le stationnement, ils consomment énormément de fuel parce qu'ils attendent de repartir. Et le hybride permettrait finalement de limiter la consommation quand on n'a pas besoin de rouler à extrêmement vite et extrêmement loin. On peut rester quand même en mode hybride, voilà, un petit peu sur stationnaire. Et donc finalement, il y a une réflexion qui est faite sur consommer mieux. Et d'ailleurs, la stratégie énergétique du ministère qui a été mise en place en 2020, c'était consommer mieux, consommer moins, consommer sûr. Donc il y a consommer moins dedans. Donc il y a une réflexion aussi économique derrière, bien sûr. Donc l'hybride est une piste, aujourd'hui, qui est étudiée. Les panneaux solaires sont une piste. Alors les panneaux solaires, il y a un petit souci quand même qu'il faut signaler, c'est que quand il y a beaucoup de sable, c'est très énervant, parce qu'il faut les nettoyer, et ça prend du temps. Et c'est pas forcément ce que les militaires aiment faire le plus, nettoyer les panneaux solaires. On a aussi une réflexion sur les générateurs, voilà, sur finalement les nouvelles formes de générateurs qui fonctionnent au fuel, la plupart d'entre eux aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être basculer vers d'autres sources d'énergie. Et alors, après, on a une réflexion aujourd'hui sur l'hydrogène, mais qui est une échelle beaucoup plus longue, qui n'est pas du tout, pour l'instant, à venir dans les années, enfin, n'arrivera pas dans les années à venir, quoi.
Et pour rester sur la perspective très opérationnelle, quoi, si on pense à une armée et à sa capacité à fonctionner en fait face à ces enjeux environnementaux, il y a aussi la question de est-ce qu'il faut préparer les armées à agir dans des... Si on considère que bon, l'environnement évolue tel qu'il évolue, le climat notamment, et que bah, les épisodes climatiques extrêmes ont tendance à se multiplier, etc. Il y a une question de est-ce qu'il faut équiper les armées, est-ce qu'il faut les préparer à agir en situation de canicule ou de typhon ou de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a voilà, un nouveau milieu à appréhender, ou en tout cas à commencer d'appréhender pour maintenir les capacités opérationnelles des armées, quoi.
Oui, et je vais parler de l'approvisionnement en fuel, il y a une question d'approvisionnement en eau aussi, forcément en opération extérieure, parce que le Sahel devient une région de plus en plus hostile du point de vue des conditions climatiques, et un soldat a besoin de plusieurs litres d'eau par jour pour être opérationnel dans ces terrains-là. Donc aujourd'hui, une réflexion qui est poussée sur finalement... comment garantir l'approvisionnement en eau en opération extérieure sur ces terrains-là, sachant que ce sont des terrains aussi complexes, hein, voilà, qui sont très vastes, où il y a effectivement des insurgés qui évoluent de manière assez importante. Donc,
parce que ça s'apprend de vivre dans le désert. Je sais pas, ça me fait toujours penser au début de Jared, le film de Sam Mendes, où on les voit... Bon, s'acclimater mal d'ailleurs au désert, et puis aussi devoir enfiler des combinaisons NRBC, donc risque chimique, bactériologique, etc. Et en fait, autant ça se fait potentiellement bien en milieu d'entraînement d'origine, autant en fait, quand on est dans le désert, tout se complique et tout est plus pénible, tout est plus lent, tout est plus difficile, quoi.
Tout est plus difficile, tout est plus lent, voilà, et c'est pas votre milieu, une nouvelle fois, donc l'acclimatation est extrêmement compliquée. Donc oui, effectivement, il y a une vraie réflexion à mener. Je ne suis pas, moi, personnellement spécialiste des programmes d'entraînement qui peuvent être faits dans ces cas-là. Il y en a. Et il va falloir, effectivement, que les armées se préparent à des interventions dans des endroits qui seront potentiellement inhabitables aussi, disons difficiles à habiter dans les années à venir. Hein. On parle du Sahel, mais on peut parler aussi de l'Asie du Sud-Est, des endroits qui sont, en raison des taux d'humidité et des chaleurs qui sont quasiment impossibles, où il sera très difficile de vivre, donc il y aura des mouvements de population, peut-être des tensions. Si les armées interviennent là, devraient aussi être prêtes à évoluer dans ces conditions-là. Et effectivement, quand on parle de l'Arctique aussi, la guerre en Arctique, c'est plus la guerre en Arctique d'il y a 20 ans. Hein. On aurait...
Moins de ski et plus de jet ski, quoi.
Potentiellement, voilà, moins de brise-glace, enfin, c'est différent. C'est effectivement une réflexion qui doit aussi être déclinée au niveau extrêmement opérationnel, je pense. Et vous avez raison qu'il sans doute l'est déjà un petit peu, mais je pousse vraiment pour que ce soit peut-être vraiment quelque chose qui soit automatique aussi. À l'école de guerre, c'est très intéressant quand on échange avec les officiers. Il y a un comité environnement qui est assez dynamique, notamment. On a une nouvelle génération quand même qui est plus consciente de ces enjeux-là aussi, hein, il faut le dire. On a un renouvellement qui est en cours. Voilà, je suis assez quand même... Alors, l'optimisme est peut-être un mot fort, mais disons, je pense que cette réflexion est lancée et qu'elle continuera d'être... en tout cas, la France a intérêt à ce qu'elle soit vraiment stimulée, voilà, parce que... On sera l'armée la mieux préparée, peut-être il faut qu'on soit l'armée la mieux préparée à intervenir dans ces contextes-là.
Et justement, pour continuer à parler de la conduite des opérations, en quelque sorte, on commençait par là, mais est-ce que maintenant il y a des espèces de lignes rouges, est-ce qu'il y a des espèces de philosophies dans la conduite des opérations, de ce qu'il faut faire et pas faire? C'est-à-dire, vous le disiez, il y a l'idée d'avoir des gains stratégiques, de pas s'aliéner des populations, etc. Mais même, est-ce qu'il y a des questions de principe qui sont entrées dans les doctrines de il faut pas toucher à l'environnement de telle ou telle manière, ou en tout cas, il y a, on peut comprendre, je sais pas, on évite de détruire des champs, ce que vous disiez tout à l'heure, ou les fleuves, les rivières, etc. Est-ce que sont intégrées dans la conduite des opérations, dans les doctrines, dont on sait que souvent elles se ressemblent parce que ça communique beaucoup, des grandes lignes directrices sur la protection de l'environnement naturel?
Oui, aux États-Unis, c'était le cas, je dirais que c'est le cas depuis fin des années 90, début des années 2000. La guerre du Golfe a beaucoup joué aussi aux États-Unis de son vue. Donc on avait disons que ça, l'incendie des puits de pétrole, vous vous rappelez tous les, c'est là qu'on a reparlé vraiment, j'ai parlé du Vietnam tout à l'heure, mais on a reparlé très largement des conséquences environnementales des conflits.
Ça, on peut rappeler, c'est peut-être la plus belle scène de Jared, puisqu'on en parlait il y a une seconde, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, faut le voir, c'est une espèce de puits de pétrole en feu que l'armée irakienne avait mis en feu en se retirant, et qui, bon, voilà.
Non, ça a été un moment aussi de réflexion profonde sur ces sujets-là. Et en Afghanistan, en Irak, après, quand les Américains sont intervenus, ils ont, comme je le disais, pour Winning Hearts and Minds, comme on dit dans la doctrine américaine, il y a eu cette... Donc l'US Army avait publié un Environmental Manual qui comportait justement, comme je disais tout à l'heure, la protection des ressources des populations, ne pas endommager les ressources des populations, protéger les écosystèmes dans la mesure du possible afin de ne pas s'aliéner la population. Et ça s'appliquait notamment aux Afghanistan, aux champs de pavots. Les champs de pavots, on en a laissé certains, les Américains ne les ont pas tous détruits aussi pour ne pas s'aliéner la population locale. Ça fait aussi partie de la réflexion. Alors c'est pas vraiment écologique, parce que c'est aussi très largement économique, mais tout de même on sent là qu'il y a quelque chose... derrière. En France, quand j'ai parlé avec des militaires qui ont été déployés, il y a plutôt quelque chose de l'ordre des bonnes pratiques. Enfin, disons, on a une doctrine qui alors, on n'a pas vraiment de doctrine unifiée, mais il y a des choses qui existent dans la doctrine sur le fait de ne pas détruire l'environnement, ne pas polluer, ne pas retraiter ses déchets, notamment parce que, par exemple, la question des déchets militaires en opération extérieure, c'est un problème extrêmement lourd. Et les États-Unis, pendant longtemps, ont brûlé leurs déchets, par exemple, ce qui a eu des effets sur la santé des soldats considérables. La France a eu cette réflexion aussi, donc applique maintenant ses normes, enfin essaye en tout cas de le faire en opération extérieure, c'est-à-dire qu'elle essaie de conserver ses déchets, de ne pas polluer outre mesure en opération extérieure. Est-ce que c'est suivi scrupuleusement, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose.
C'est compliqué, parce qu'on mesure que de la même manière qu'une unité consomme beaucoup d'essence, mais quand il y a des gens qui vivent quelque part et qui font des choses, il y a forcément des déchets, et quand en plus il y a des problèmes de logistique, comme c'est le cas absolument dans toutes les opérations militaires, il y a forcément la tentation de ne pas en plus s'encombrer de trajets retour de logistique des déchets.
Bien sûr, c'est pour ça que je dis que ce qui reste quand même le fil directeur, c'est que c'est à partir du moment où il y a un avantage stratégique, en tout cas un aspect stratégique à la protection de l'environnement, au traitement des déchets, que c'est fait, que c'est vraiment conscientisé, opérationnalisé.
Et est-ce qu'il y a des lignes rouges absolues? J'y pensais, il y avait en Ukraine, il y avait le truc autour des centrales nucléaires, de cette idée que il y a certains endroits où il ne faut pas se battre, parce que c'est une mauvaise idée, on pourrait dire que ça va plus loin que l'environnement, mais ce n'est pas une bonne idée dans l'absolu. Est-ce que comme ça, il y a des choses qui sont... dans le droit international, ou même pas forcément, mais qui sont définitivement hors limite à cause des effets environnementaux que ça pourrait avoir?
Dans le cas de l'Ukraine, c'est particulier, effectivement, parce qu'on a des centrales nucléaires. J'ai pas d'autres exemples historiques où on a vraiment eu une guerre dans un endroit où il y avait une telle concentration aussi, parce que l'Ukraine est extrêmement...
Mais on parle toujours des centrales nucléaires comme truc de vulnérabilité, à ma connaissance, les plus gros accidents de production électrique, c'est des barrages, Et des barrages, il y en a un peu partout.
C'est vrai.
On parle souvent de... Si on regarde un peu ce qui se fait par l'Éthiopie sur le barrage sur les sources du Nil, et le fait que l'Égypte pourrait être assez tentée d'aller dégommer un peu le barrage, c'est un sujet, Enfin, je veux dire, et ça fait des catastrophes gigantesques, les barrages aussi. Alors, c'est moins paniquant que le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est le nucléaire. Mais il y a plein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'installations, en fait, civiles, qui, touchées par des combats, pourraient produire des dégâts gigantesques, quoi, en fait.
Oui, absolument. Le conflit en Ukraine invite quand même à la prudence sur cette question des lignes rouges, parce que moi j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, que l'armée russe n'a aucune ligne rouge en matière de destruction. En tout cas très peu. On voit que la politique russe de destruction systématique du bâti civil, des villes, des faubourgs, etc., n'est pas animée spécifiquement de considérations humanitaires ou écologiques. Il y a eu des lignes rouges, comme je le disais tout à l'heure, dans les opérations d'intervention occidentale, plutôt pour des raisons de légitimité. Ça pouvait concerner, encore une fois, des forêts. Enfin, disons, il n'y a pas volonté de faire des écocides pour ne pas, encore une fois, s'aliéner la population, etc. Maintenant, dans le droit international, le droit international est très clair. Enfin, le droit international, c'est, en tout cas, le droit humanitaire. Le droit international humanitaire, quand on parle d'environnement, c'est on ne doit pas détruire l'environnement dont dépendent les populations civiles. Donc tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est... même parfois ce qui a valeur culturelle. J'avais l'exemple d'un... Au Mali, on m'avait expliqué qu'une fois, il y avait un largage de ravitaillement qui devait être fait, et le commandant sur place a échangé avec le chef du village, qui lui a dit qu'il ne fallait pas larguer là, parce que c'est une forêt sacrée pour eux. Bon, il l'a fait larguer un peu plus loin. C'est pas grand-chose, si vous voulez, mais voilà, on voit quand même une volonté de, disons, de ne pas s'aligner les populations, de faire attention à certaines choses. Donc ça fait partie... c'est présent, quelque part, si vous voulez. Donc on a cette idée-là, mais c'est vraiment une question de légitimité, j'ai envie de dire. Et au niveau du... Donc on a
encore une fois, enfin, ça peut renvoyer... On a fait une émission avec Julia Cagnon, c'est... Le droit international dit que c'est interdit, ça n'empêche pas que les gens ne le font pas, enfin ne respectent pas le droit international, mais on peut répéter que l'infraction au droit international ne nie pas le droit international du tout, c'est le droit international continue à exister. Et parfois il est même renforcé du fait des infractions. Je renvoie à l'émission qu'on avait fait justement sur l'Ukraine avec Julia Gagnon. En fait, paradoxalement, parfois les normes internationales sont renforcées du fait que certains les violent.
Oui, la guerre en Ukraine va être un bon cas d'étude pour ça, j'imagine. Et donc, en plus de la distinction donc, civile et militaire, donc on ne doit pas détruire les ressources civiles, il y a aussi le principe de proportionnalité qui est important en droit international humanitaire. Et de manière générale, quand on parle d'environnement, c'est l'idée que les dégâts environnementaux ne doivent pas excéder, enfin, en tout cas, sont à rapporter aux gains militaires envisagés. C'est-à-dire que vous ne devez pas causer de destructions inutiles, exagérées de l'environnement quand vous... faites une opération militaire.
Par exemple, il ne faut pas faire tomber le feuillage de toute une forêt ou toute une région juste pour choper deux guerriers au Vietnam.
Comme vous l'avez dit, ça vient du Vietnam. Voilà, ça vient du Vietnam.
Enfin, ça pose peut-être une question plus large, qui est celle de la prise en compte de l'environnement dans la réflexion, disons, stratégique et même géopolitique. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais ça renvoie vers toute la thématique de l'environnement, et en particulier du climat comme facteur de conflit. C'est notamment les travaux d'Harald Welzer sur les guerres du climat, alors qui ont eu beaucoup de publicité, qui sont très discutés aussi, avec cette idée que le climat, le réchauffement climatique provoquerait tout un tas de guerres plus ou moins imminentes. Alors c'est très discutable et très discuté, mais comment est-ce que le monde militaire, en quelque sorte, et en tout cas les différentes armées, se saisissent ou pas d'ailleurs de ces thématiques et de cette idée que voilà, le climat, c'est peut-être le grand facteur de disruption stratégique dans les décennies qui viennent?
Pendant longtemps, on a eu un problème de causalité. Le lien entre le changement climatique et en général les bouleversements environnementaux et les guerres ou les tensions ou le terrorisme, etc., était difficile à prouver.
Il y a rarement un mouvement d'insurrection ou une déclaration de guerre parce qu'il y a un fleuve qui est asséché ou des sols pollués, quoi.
Voilà, c'était compliqué, si vous voulez, de faire ce lien-là. Et dans les années 90, vous avez un auteur canadien que j'aime bien citer qui s'appelle Thomas Homer Dixon, qui avait fait beaucoup pour montrer justement que le lien entre pénurie des ressources, notamment, et conflit était... complexe, très complexe, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et en fait, il a eu tendance parfois, ce chercheur et d'autres chercheurs, à forcer le trait pour convaincre les armées du bien fondé, encore une fois on parle de sécurisation, pour les convaincre du bien fondé des facteurs environnementaux et de leur importance pour la défense. Mais ce problème de la causalité a souvent posé problème et a considérablement ralenti la prise en compte de ces enjeux aussi par la défense, qui disait finalement s'il n'y a pas de causalité importante, etc., est-ce que c'est bien important qu'on étudie ces sujets-là, sachant que peut-être que les questions de tensions religieuses, culturelles, ethniques sont prioritaires. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Enfin, si vous avez on a eu un épisode de canicule là. En France, ces derniers jours, vous l'avez dans une autre région du monde, bon, ça peut accentuer certaines tensions qui n'existent pas en Bretagne, effectivement, ou ailleurs. Donc, on voit bien que la causalité est complexe, en tout cas, entre les phénomènes climatiques extrêmes et les questions de sécurité.
Pas minimiser la virulence des tensions en Bretagne.
C'est ce que j'y pensais, je me disais oui en même temps, pourquoi pas. En revanche, ce qui arrive depuis quelques années maintenant, c'est que les rapports du GIEC sont de plus en plus... ferme sur les liens entre le dérèglement climatique et la déstabilisation des systèmes sociaux, de manière générale. Les migrations sont un exemple criant de ce lien avec le GIEC maintenant qui nous dit, et les experts du GIEC nous le répètent, François Gémen, qui travaille pour le GIEC, qui a publié beaucoup sur ces sujets, le dit aussi, on va vers un monde où de plus en plus de personnes vont être forcées de se déplacer, en tout cas ne vont plus pouvoir vivre là où elles vivent actuellement. Parce que ce sont des zones qui deviendront inhabitables, tout simplement. On voit qu'il y a peut-être un lien entre les migrations qui sont du coup forcées, hein, d'une certaine manière, hein, par le changement climatique, et des possibles tensions qui peuvent exister là où ces personnes vont se rendre, avec des tensions politiques, sociales, religieuses peut-être également. On parle du Bangladesh beaucoup, notamment. S'il y a des migrations massives en provenance du Bangladesh qui vont vers les pays voisins, c'est une région quand même qui est assez complexe et où il y a des tensions religieuses importantes, ça peut poser problème. Donc le GIEC, aujourd'hui, les experts du climat nous disent, à mesure aussi, il faut le dire, que le dérèglement... on voit que les objectifs de l'accord de Paris ne vont pas être atteints, on voit que finalement, on se dirige vers un plus 4 degrés à la fin du siècle. Il devient de plus en plus évident qu'on n'échappera pas à certains phénomènes sécuritaires. Et cette prise de conscience scientifique, elle s'accompagne, et les militaires ont quand même souvent la capacité d'écouter ce qui se fait dans le monde de la science. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique et de problèmes de sécurité, c'est beaucoup plus, audible que ça l'était dans les années 90 et 2000, où on était encore un peu pudibond sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il apparaît assez clair, finalement, qu'il y aura des liens entre les deux. Après, est-ce que c'est à la défense de gérer ces sujets-là ?
Alors, c'est toute une question, parce que donc là, on parle du lien entre environnement, climat et conflit au sens large. Mais ce que vous détaillez aussi, ce que vous montrez aussi, c'est que ça concerne les militaires, parce que dans les faits, ça les concerne, et on voit de plus en plus que les militaires sont mobilisés, ouais, littéralement, quand il y a une catastrophe climatique, quand en fait il y a besoin, quoi. L'exemple le plus frappant récemment, c'était peut-être le Covid, mais c'est parce que c'était une épidémie, quoi. Mais c'est vrai aussi, à chaque fois qu'il y a un ouragan, en général, c'est les militaires qu'on envoie en premier. D'ailleurs, on pourrait interroger cette logique. Est-ce que, parce que les militaires ont en tout cas l'image de savoir opérer en situation d'urgence compliquée, etc. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres types de personnel plus spécialisés dans ces choses-là. Mais en tout cas, les militaires, dans les faits, sont mobilisés pour ces choses-là. Oui. Et du coup, on imagine qu'ils commencent à se sentir. Enfin, ça participe, disons, à ce qu'ils se sentent concernés par la thématique plus large, quoi.
C'est une vraie question. C'est une vraie question. Qu'il y ait des liens entre changement climatique et sécurité, apparemment, ça commence à devenir quelque chose de. Enfin, ça commence à devenir quelque chose d'assez acquis. Maintenant, est-ce que c'est à l'armée, finalement, de gérer ces liens-là ? Est-ce que ce n'est pas les acteurs du développement humanitaire, les organisations internationales qui devraient plutôt gérer ces flux de population, peut-être des programmes de long terme plutôt que des interventions spontanées, etc. Donc ça, c'est une vraie question, mais qui est une question politique pour le compte. Hein. Est-ce que l'armée a vocation à intervenir à chaque fois qu'il y a ce type de crise, etc. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, au-delà de ce débat plus large, c'est que les armées, effectivement, sont mobilisées sur des catastrophes d'origine climatique, et en France, qui a été le point de bascule un petit peu dans cette réflexion-là, c'est l'ouragan Irma, donc en 2017 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où l'armée française a dû être déployée puisqu'il n'y avait plus sur place, il n'y avait plus la possibilité sur place de coordonner les secours. Il a fallu donc envoyer l'armée pour ravitailler, pour sécuriser, pour remettre en état, pour gérer la crise. Donc sur des territoires qui sont extrêmement éloignés aussi, hein, quand on parle de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc c'est pas, voilà, c'est quand même un défi logistique important aussi. Donc il y a une prise de conscience quand même du fait que les armées vont être concernées par ces crises-là au premier chef, puisqu'elles vont être mobilisées, alors, en dernier recours, hein, je veux dire, bon, dans des situations quand même assez extrêmes, mais elles vont être de plus en plus mobilisées sur ces sujets.
En dernier recours, mais aussi en première ligne. C'est, enfin, ça renvoie au fait aussi que, de toute évidence, l'armée est le premier outil, enfin, est l'outil de l'État en cas de crise qu'on ne sait pas gérer, quoi. Enfin, on sait gérer par là, mais je veux dire, quand on n'a pas d'outil adapté, apparemment, on envoie l'armée.
C'est ça, exactement. Dernier recours et première ligne, effectivement, sont les deux. Avec les collègues de l'IRSEM qui ont travaillé sur la question du Covid, on travaille maintenant sur le climat plus particulièrement, et on va essayer de voir, voilà, est-ce que c'est envisageable que l'armée intervienne finalement de plus en plus sur ces types d'opérations-là, sachant qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, des contraintes de matériel, des contraintes de personnel, qui fait que l'armée, si on va vers une multiplication des crises climatiques, bah, seront de plus en plus mobilisés, donc auront de plus en plus besoin de ressources aussi pour faire ces opérations-là. Et donc la question va se poser de...
qu'on ne peut pas, à budget constant, à la fois se préparer à une guerre de haute intensité en Europe et s'occuper de toutes les crises climatiques et pas avoir plus de moyens.
Enfin, il y a un truc à un moment et cette question va se poser. Mais encore une fois, cette question, elle va de pair avec ma première question qui était, est-ce que l'armée doit systématiquement aussi... Ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin de construire, un terme qui est malheureusement galvaudé mais que je vais utiliser ici, la résilience des territoires face aux événements climatiques extrêmes, ce qui empêcherait peut-être aussi l'armée d'être déployée tout le temps quand il y a des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une logique de... Alors, on parle beaucoup de prépositionnement, mais en tout cas une logique de construction au niveau des territoires ultramarins, au niveau de la métropole, de mécanismes de secours qui font que l'armée ne n'aurait pas besoin systématiquement d'être déployée. Enfin, c'est une réflexion à mener vraiment à mesure que le climat se dégrade. Voilà, c'est vraiment une question politique très importante, à mon avis, pour les années à venir, au sein de la défense, mais aussi, vous le voyez très bien, au sein de la société française, finalement.
Merci beaucoup, Adrien Estève.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je renvoie évidemment vers ce numéro, donc des Champs de Mars, qui est disponible. Alors, dans toutes les bonnes librairies, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais il est disponible, en tout cas, en version papier, mais aussi sur Cairn, en ligne. Numéro très intéressant, donc je l'ai dit à votre article. Sur la montée du souci environnemental aux États-Unis. Il y a aussi un très bon article d'Edouard Joly et Angélique Pall de l'IRSEM sur la préoccupation environnementale dans les armées françaises. Énormément de choses aussi sur, par exemple, le souci de protection environnementale en Afrique, en RCA, etc. Numéro vraiment, enfin, dossier en tout cas, vraiment extrêmement riche que je recommande vivement. Merci beaucoup.
Merci.
Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout ça est toujours très bienvenu, tout comme notes et commentaires sur les différents outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ça fait plaisir, ça nous intéresse, et ça aide par ailleurs grandement à la visibilité du podcast, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés, disons, par les différents formats de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.